Mesdames et messieurs, cher public, quand vers 160 avant Jésus-Christ, Polybe décida de s'atteler à la rédaction d'une grande œuvre historique pour meubler ses loisirs forcés, puisqu'il séjournait alors en Italie, comme otage achéen, avec nombre de ses compatriotes déportés en 167, et qu'il n'avait aucune perspective de pouvoir reprendre de sitôt ses activités politique, tandis qu'inversement, son séjour à Rome lui donnait la possibilité de s'entretenir avec les acteurs mêmes des grands événements récents et d'accéder aussi à des sources de première main. Quand Polybe, disais-je, prit cette décision, son projet, on le sait, était d'écrire ni plus ni moins l'histoire de la mainmise romaine sur la Méditerranée occidentale aussi bien qu'orientale. Projet d'une ampleur déjà considérable, au point que personne ne l'avait tenté, ni même conçu jusque-là, mais projet néanmoins bien délimité sur le plan chronologique. Il lui apparaissait alors évident que cette conquête s'était réalisée en à peine plus d'un demi-siècle, 53 ans exactement, comme il l'indique dès son livre 1. Car tant du côté romano-carthaginois, que du côté grec et macédonien, sans parler de l'Asie mineure et de l'Égypte, tout avait commencé selon lui vers 220 pour se terminer en 168-7, avec l'élimination du royaume de Macédoine. L'année 167 marquait donc un tournant. Ce n'était pas seulement l'aboutissement d'un processus, c'était en quelque sorte la fin de l'histoire avec un H majuscule. Après cette date, il n'y avait plus que des événements de moindre importance, de petits conflits, des affaires où les Romains avaient assurément approuvé leur talent d'arbitre et de gestionnaire, mais où ils n'avaient plus guère à imposer leur volonté par les armes. Polybe, toutefois, jugea bientôt indispensable de poursuivre son histoire au-delà du tournant 267, ne serait-ce que pour montrer comment chaque peuple s'était accommodé de son nouveau statut sous l'égide de Rome, et pour pouvoir porter un jugement objectif sur les suites de la conquête. Car, écrit-il, si le succès ou l'échec constituaient des critères suffisants pour nous autoriser à louer ou au contraire à blâmer les individus et les États, nous devrions nous arrêter à ce moment-là, selon notre projet initial, c'est-à-dire à l'année 168-7. Cette phrase remarquable se lit au chapitre 4 du livre 3, au moment où Polybe, après avoir préparé le lecteur à prendre la mesure des forces en présence, c'est la procataskeia, entame véritablement son sujet, à savoir le récit des fameuses 53 années. Or, il y a accord chez les spécialistes de Polybe pour penser que ce chapitre 4 constitue, avec celui qui suit immédiatement, un ajout au texte primitif. L'historien prenait conscience, en cours de rédaction, que vers 150, après une quinzaine d'années de paix relative, prenait conscience que le monde gréco-romain est entré dans une nouvelle période de grave turbulence. Eos tes metatauta, palin epigenomenes, tarakes kai kineseos. Cette rupture se trouvait du reste coïncidée avec un changement d'ordre personnel. Puisqu'en 151, les otages dont il était, quelques 300 survivants sur les 700 déportés en Italie 16 ans plus tôt, furent autorisés à rentrer chez eux. Polybe, dès lors, vécut le plus souvent en Grèce, tout en continuant à voyager, ainsi à Carthage, avec ses protecteurs romains, dont le fameux Scipion Émilien, décédé à Rome en 129, peu avant sa propre mort, celle de Polybe, vers 125. Pour parachever sa fresque historique, Polybe a donc tenu à prendre en compte cette période critique, s'étendant sur une demi-douzaine d'années, de 151 à 146.5, cela à cause de l'importance des actions qui s'y étaient produites et du caractère extraordinaire de ces événements. Il le note, « to paradoxon, ton symbainonton », comme aussi ajoute-t-il, toujours dans ce même passage, « en raison du fait que j'ai été non seulement le spectateur, autoptes, d'une grande partie d'entre eux, mais l'auxiliaire, synergos, de quelques-uns, et l'auteur même, Keirisès, mais la gradation, de certains autres. Claire allusion à son action au lendemain de la guerre d'Achaïe en 146.5, quand il reçut mandat de réformer les cités péloponnésiennes. De fait, il devait consacrer au récit de ces années-là pas moins de 6 nouveaux rouleaux, les livres 35 à 40. Mais de cette partie-là de son histoire, certainement très substantielle, peu de fragments ont survécu. Et par malchance, il ne reste plus qu'un résumé des livres où Tite-Live traita à son tour de cette période dans un récit qui devait être à peine moins abondant et précieux. C'est dire combien nous sommes parfois démunis pour reconstituer la trame historique d'une époque pourtant cruciale et quelle valeur dès lors peuvent prendre certains documents épigraphiques susceptibles de combler en partie des lacunes aussi béantes. Dans cette documentation, les inscriptions attiques n'occupent pas une place négligeable, même si Athènes a été largement épargnée, on l'a vu, par le soulèvement et la guerre de 146. Un exemple récent nous a été fourni par le décret pour l'épimélète de Délos en 147.6, déjà allégué précédemment, et qui fait état d'une fébrile activité diplomatique à la veille du conflit. Cette inscription a le double avantage d'être assez bien conservée, très bien conservée, et datable de manière précise par un archonte. Ce n'est pas le cas, hélas, de l'inscription dont nous avons commencé à débrouiller le texte au cours du séminaire de la semaine dernière et que je voudrais essayer aujourd'hui d'exploiter sur le plan historique avant de passer aux quelques documents qui nous informent sur les relations d'Athènes avec les souverains de l'Orient grec. S'il nous était parvenu en meilleur état, ce décret des Athéniens de Myrina dans l'île de Lemnos figurerait à coup sûr au nombre des sources les plus importantes du milieu du IIe siècle, alors qu'en fait, il a été le plus souvent négligé par force par les historiens de la conquête romaine. Même les spécialistes des antiquités lemniennes l'ont un peu laissé de côté dans l'idée apparemment qu'il n'aurait pas grand-chose à nous apprendre puisque, quelle que soit sa date exacte, il se rapporterait fondamentalement à la situation découlant de la restitution de Lemnos à Athènes en 167 suite à une décision du Sénat qui fixait également, on s'en souvient, le nouveau statut de Délos. Car on avait vu que Polybe, au livre 30, chapitre 20 de ces histoires, associe étroitement le sort des deux îles dans le train des mesures sénatoriales prises au lendemain de la victoire sur le roi Persée. C'est en tout cas ce contexte que retient pour l'inscription notre très estimée collègue de Turin, Madame Enrica Cullasso Gastaldi, venue ici même en 2010, nous présenter le dernier état de ses investigations sur l'épigraphie attique de Lemnos, comme le montre aussi une récente communication présentée par elle lors d'un colloque de Naples consacré à cette île et à ses vestiges archéologiques. Quoique trouvé à Athènes, le décret émanant à coup sûr de l'une des deux communautés de colons athéniens installés dans cette île, celle de Myrina, sur la côte ouest, alors que l'autre, Héphaïstia, se trouvait dans la partie est de l'île. Si le premier éditeur de l'inscription fut tenté de placer ce document encore avant l'an 200, la datation la plus courante s'est imposée dès le début du XXe siècle, dans la deuxième édition des Inscriptiones Atticae de 1916, sous le numéro 1224, je vous montre une vue générale d'abord, où le texte est assorti d'un bref commentaire, bien trop bref à la vérité, dû au valeureux Johannes Kirchner. Depuis, à ma connaissance, aucune autre édition n'en a été procurée. Mais il est important de prendre conscience d'une chose, c'est que le premier à proposer cette date de 167 l'avait fait sur la base d'un texte encore plus lacunaire que celui dont on dispose depuis 1916. Dès 1876, en effet, dans la revue Hermès, l'Allemand Adolf Kirchhoff eut l'incontestable mérite de raccorder deux fragments ayant été publiés de manière séparée une génération plus tôt. L'un, à droite, provenant, qui avait abouti au British Museum, publié ensuite par August Böck, l'archégète de nos études, l'autre provenant des fouilles de l'Acropole par les épigraphistes grecs Pittakis et Rangabe. Le document ainsi reconstitué montrait de façon plus claire, même si Böck avait déjà su tirer quelques enseignements du seul morceau connu de lui, en particulier grâce à la mention des Romains, Romaion, à la ligne 7, on était désormais en mesure de mieux comprendre ce qu'avaient voulu faire les Athéniens de Myrina. Appelons-les ainsi plutôt que clérouques, car ce terme technique ne s'appliquait pas à tous les colons athéniens de Lemnos, comme l'a bien montré l'auteur d'une thèse italienne récente sur les clérouquies athéniennes, Madame Nicoletta Salomon, qui, en revanche, il faut le dire, n'a pas fait progresser l'étude de notre décret. Cette communauté avait tenu à saluer une décision favorable concernant le statut d'un certain nombre d'îles qui étaient sous juridiction athénienne, en consacrant à Athéna sur l'Acropole une couronne d'or avec une inscription, afin, dit le décret, ligne 4, de laisser auprès de la déesse un mémorial éternel, Aion Upomnema, de la reconnaissance des gens de Myrina à l'égard de cette divinité tutélaire. Dans ce but, ils envoyaient à Athènes une députation de 5 citoyens qui étaient non seulement chargés d'accomplir le rituel de consécration, mais qui devaient prendre la parole devant le conseil et le peuple d'Athènes au chapitre des affaires sacrées, en hieros. Ainsi, les gens de Myrina pourraient partager avec les autorités athéniennes la satisfaction que leur procurait la victoire ou l'annonce de la sentence rendue aux lignes 18-19, Epitoi nenike kenai togenomenon krima, qui est une brillante restitution due, pour ce qui est du verbe en particulier, à Kirchhoff. Grâce à quoi avait trouvé un dénouement pour eux, telos autois eilephenai, les actions judiciaires au sujet des îles, tas uperton neson dikas, ce dernier mot étant une restitution également séduisante de Wilhelm, intégrant aussi la locution katatas chryseis, après, qui n'est pas dans ce texte donc, avant l'adjectif proteras, selon les jugements ou arbitrages antérieurs. Procédure qui s'était soldée par la reconnaissance des droits d'Athènes à la possession de ces îles, tas uperton neso. Les ambassadeurs, enfin, demandaient l'autorisation de faire transcrire leur décret sur deux stèles, dont l'une serait également dressée sur l'Acropole, c'est la pierre qui nous est parvenue, tandis que l'autre, qui reste à découvrir peut-être, devait l'être à Myrina même, dans un sanctuaire
alors encore inconnue, mais dont l'identification fut acquise peu d'années après sur la base d'un raccord effectué à l'angle inférieur droit de la stèle athénienne. Il s'agissait d'un hiéron d'Artémis, identifiable à un sanctuaire qui, plus tard, a été fouillé au nord de la ville de Myrina. Le document expliqué par Kirchhoff trouva sa place peu après dans le premier corpus des Inscriptiones Atticae, sous le numéro 593, avec des addendas, œuvre du perspicace Ulrich Köhler, qui put améliorer et compléter le texte reçu, tout en adhérant sans réserve à la datation prônée par son devancier. Dans son Hellenistic Athens de 1911, appelé, on le sait, à servir d'ouvrage de référence jusqu'à la fin du XXe siècle, William Scott Ferguson le remboîta le pas, tout naturellement. Il n'est guère concevable, écrivait-il, je traduis de l'anglais, qu'un tel remue-ménage, such an ado, ait été provoqué par autre chose que la restitution de Lemnos à Athènes en 167-6. L'historien américain relevait toutefois que le décret de Myrina ne pouvait pas être daté de l'année 167 même, puisque l'un des Athéniens mentionné au nombre des représentants de l'autorité militaire à Lemnos, à la Lindis, le commandant de la cavalerie, Liparkos Eis Lemnon, une magistrature connue dès le IVe siècle par l'Athénaïon Politeia aristotélicienne, est dit exercer sa charge pour la seconde fois, de Deutéron. Dès lors, il fallait admettre un intervalle d'au moins 2 ans entre la restitution de Lemnos et la décision des Athéniens de Myrina de faire écho à ce don consenti par le Sénat. Mais par ailleurs, tout semblait s'accorder au mieux avec le témoignage de Polybe, puisque Kirchhoff déjà avait vu qu'à la ligne 7, après la fameuse mention des Romains, il fallait beaucoup mieux restituer Tes Romaion Suncletu, le mot est effectivement de genre féminin, plutôt qu'introduire ici une expédition romaine, Tes Romaion Strateias, comme Buck avait cru devoir le faire. Ce qui permit aux éditeurs postérieurs d'écrire Uper Tes Gegoneias, Epites Romaion Suncletu, Bebaioseos, ton proteron uparcuson neson toidemoitoi athénaion, pour la confirmation de propriété prononcée en séance du Sénat des îles relevant de l'autorité du peuple des Athéniens. Toutefois, des éléments nouveaux allaient surgir, dont il est vrai on ne sut guère tirer parti dans l'immédiat. En rédigeant son ouvrage, Ferguson savait déjà, grâce à l'amabilité de son collègue Adolphe Wilhelm, que celui-ci avait identifié comme appartenant à la même stèle de l'Acropole deux fragments publiés antérieurement et séparément dans le premier corpus attique. L'un d'eux, certes, en dépit de son appartenance au couronnement du monument, était trop délabré pour être réellement utile. Mais l'autre comportait encore les vestiges d'une quinzaine de lignes attribuables, sans nul doute au considérant, c'est-à-dire à l'exposé manifestement circonstancié des raisons qui avaient amené les Athéniens de Myrina à prendre ce décret. Ces deux fragments ont été insérés, vous le voyez là, dans l'édition de Kirchner de 1916, sans le moindre commentaire. Il est vrai que Wilhelm lui-même n'avait alors rien publié à leur sujet. C'est seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, à Vienne, qu'il rédigea quelques pages là-dessus, mais qui n'ont été publiées que très récemment, en 2006, plus d'un demi-siècle après son décès. L'épigraphiste autrichien y améliorait sensiblement, on l'a vu au séminaire, plusieurs des restitutions adoptées dans le dispositif du décret, c'est-à-dire dans la partie la mieux conservée de l'inscription, les fragments A, B, C, déjà connus, montrant en particulier que s'imposait en ligne 3 la lecture apocruson pentekonta pour définir le prix, soit 50 statères d'or, de la couronne offerte à Athéna par les colons de Myrina, alors que depuis Kirchhoff, on croyait avoir affaire à un coffret en or massif, holocruson, notamment chez Kirchner. Il faisait également quelques observations très intéressantes sur le fragment des considérants où il est bel et bien question du Sénat. Vous avez à la ligne 11, Didaxas ten Syncleton, ayant instruit le Sénat, et dans Senatus Consult, ligne 12, dia tu genomenu dogmatos hypothèse Syncletu, ce dernier mot étant restitué de façon certaine. Très brièvement aussi, mais de façon décisive, il mettait en évidence le fait que la décision sénatoriale avait été précédée par une intervention athénienne, car la ligne 4, « ο demos ο Athénaion » doit être le sujet de tous les verbes à l'aoriste qui suivent, les Athéniens ayant manifesté leur préoccupation face à la situation, « enéken tu me peri idein » ne pas négliger, situation qui était pleine de troubles, taratomenon, cette restitution du participe au génitif étant de fait la seule envisageable dans une inscription qui, quoi qu'en aient pensé les éditeurs, respecte toujours la coupe syllabique, donc exclue de restituer pratomenon, avec un pi qui aurait été placé à la ligne précédente. Il montrait de même, donc Wilhelm, que les Athéniens avaient eu à s'opposer à des gens qui commettaient non pas nécessairement des actes de violence, prostus adicuntas, comme Kirchner l'avait restitué un peu mécaniquement, mais contre ceux qui revendiquaient injustement des droits sur la propriété de ces îles dévolues à Athènes, prostus adicos, ton neson antipoiumenus. L'affaire avait donc été très sérieuse, et c'est finalement aux Romains communs bienfaiteurs de tous, selon l'expression consacrée à partir du deuxième cas, et qui figure dans notre texte du deuxième siècle, que les Athéniens, devaient de l'avoir emporté de haute lutte. La décision sénatoriale fut pour Athènes un jour à marquer d'une pierre blanche, ten genomenen œil émerian, et une cérémonie d'action de grâce dut avoir lieu à l'annonce de ces bonnes nouvelles, œil angelion tusia. Mais cet ensemble de données nouvelles était-il compatible avec l'interprétation traditionnelle du document? Wilhelm lui-même, c'est le texte que vous avez dans le dossier, paraît l'avoir pensé puisqu'il notait à propos du personnage apparaissant à la ligne 13, que ce Gaius Laelius avait toute chance de ne faire qu'un avec le consul de l'année 190, qui mena en 174 encore une députation auprès du roi Persée. Mais l'on n'est pas obligé d'être en tout point d'accord avec ce grand savant, plus épigraphiste peut-être qu'historien. De fait, dans l'intervalle, une nouvelle donnée est venu apporter un argument de poids en faveur d'une date plus basse. Dans l'un de ses premiers travaux sur les lapicides attiques, en 1978 déjà, Stephen Tracy a montré que le graveur de notre stèle, dont la main est identifiable au moins par lui, avait travaillé entre 148 et 134 environ. Il est vrai que cette fourchette s'est révélée ensuite excessivement étroite, et que Tracy lui-même a adopté pour ce lapicide, comme vous le voyez, une période d'activité commençant déjà vers 169, ce qui n'exclurait pas donc la datation traditionnelle en 167-6. Mais un rapprochement prosopographique fait par le même chercheur était néanmoins favorable aux alentours de 140. Le stratège des hoplites, Héracléitos, qui apparaît à la ligne 9, fils de Poséidipos, étant est très probablement du dème d'Icarion, Icarieuse peut être restitué, se retrouvant en diverses autres inscriptions attiques de cette époque-là. Plus récemment, dans sa synthèse sur Athènes hellénistique, dont la version française, je le rappelle, a été publiée une première fois en l'an 2000, Christian Habicht a proposé de voir en Gaius Laelius, le magistrat qui convoqua et présida le Sénat lors de la séance où fut voté par les patresses le Senatus consulte relatif aux îles. Exégèse qui me paraît s'imposer absolument au vu des usages romains. Il en découle que notre Laelius est nécessairement Laelius le Jeune, l'alter ego de Scipion Émilien, immortalisé dans le De Amicitia de Cicéron. Car ce personnage accéda au consulat précisément en 140. Au vrai, c'est plus vraisemblablement dès 145, en tant que praetor, que ce personnage a dû présider au moins une fois le Sénat en l'absence des consuls, chose bien fréquente. Habicht met donc la situation troublée qu'évoque le décret en relation avec la guerre achaïque de 146. Sur le plan strictement chronologique, je n'ai rien à objecter à cette solution très satisfaisante. Mais deux choses me gênent. D'abord, on ne voit pas bien en quoi la rébellion du Koinon achéen et de ses alliés pourrait avoir eu des incidences sur le statut des possessions d'Athènes en mer Égée, puisque les Athéniens se tinrent à l'écart du soulèvement. D'autre part, je puis difficilement faire mienne l'hypothèse que l'objet du Senatus Consulte aurait été autre chose que la confirmation des droits athéniens sur Lemnos, puisque la population de Myrina, comme celle d'Héphaïstia, très probablement aussi, célébra l'événement avec de tels transports de joie. Or, l'opinion commune voulant que les îles de Lemnos, Imbros et Skyros rétrocédaient à Athènes en 167, fussent demeurées ensuite sous la juridiction de cette cité sans la moindre interruption, Habicht a été obligé de supposer que les Nessoi mentionnés dans notre décret désigneraient en fait d'autres territoires insulaires que ces trois îles. Il pourrait s'agir, selon lui, des Sporades du Nord, Skiathos, Ikos, Peparethos. Voici donc la solution qui me paraît devoir être substituée à la sienne, sans compromettre, encore une fois, le résultat chronologique auquel est parvenu notre très vénéré collègue et ami. Peu après 150, s'est produit en effet un autre événement majeur. C'est la révolte d'Andriscos, dite aussi le pseudo-Philippe, qui se prétendait fils du roi Persée et voulut, à partir de 149, libérer la Macédoine de la tutelle romaine. Il est vrai que dans les pauvres restes des derniers livres de Polybe, il n'y a presque rien sur ce soulèvement. L'historien grec en avait fait pourtant un récit très circonstancié. La preuve se trouve dans l'aperçu de l'ensemble de l'œuvre esquissé dès le livre 3. À propos de l'attaque inique des Romains contre Carthage en 147, il écrit en effet ceci. Simultanément, les Macédoniens renoncèrent à l'amitié avec Rome et les Lacédémoniens à la confédération avec les Achéens. Alors commença et se consomma tout à la fois le malheur commun de toute la Grèce. To koinon atukema passes tesselados. La révolte des Macédoniens, à l'appel du prétendant Andriscos, le pseudo-Philippe, menaça d'ébranler tout l'édifice construit par Rome dans les Balkans. Pour en connaître les principaux épisodes, il faudrait se tourner vers les abrégés de Tite Live et vers d'autres auteurs tardifs. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir qu'en 149, le personnage parvint à affronter victorieusement une armée romaine envoyée contre lui en Thessalie. N'aurait-il pas cherché alors à rallier à sa cause, de gré ou de force, la population des îles voisines de la Macédoine et de la Thessalie, notamment Lemnos et Skyros, autrefois possédés par son grand-père, ou pseudo-grand-père, Philippe V, et tenus maintenant par ses alliés inconditionnels de Rome, qu'étaient les Athéniens. On objectera peut-être qu'il fut vaincu dès 148 et qu'alors déjà, la Macédoine fut réduite en province romaine, dont le premier gouverneur, Quintus Caecilius Metellus, fut celui qui, en 146, vainquit les Achéens révoltés avec leurs alliés de Thèbes et de Chalcis aux confins de la Thessalie. Mais précisément, la constitution de cette nouvelle et très vaste province posait la question de savoir quelle en serait l'extension. Fallait-il placer sous le contrôle direct du gouverneur les régions de Grèce propre qui s'étaient révoltées ? N'était-il pas opportun de mettre fin à la souveraineté d'Athènes sur Lemnos et sur Skyros, qui avait pu servir d'abri à des insurgés venus du continent? Il y avait nécessairement au Sénat des gens pour souhaiter cette extension insulaire de la provincia, de la zone de surveillance du gouverneur romain. C'est contre eux, je pense, prostus adicos toneson antipoiumenus. Selon la très séduisante restitution de Wilhelm, qu'Athènes a dû plaider sa cause devant le Sénat dès après 146. Et c'est sans doute grâce à l'intervention de magistrats philhellènes, tels Scipion et précisément Laelius, que les Athéniens durent de l'emporter une fois de plus. Tout imprégné de culture et de philosophie grecque, stoïcien lui-même, Laelius avait conservé le souvenir vivace de l'ambassade venue à Rome 10 ans plus tôt, plaider la cause athénienne par la bouche de 3 philosophes. On comprendrait donc un peu mieux la reconnaissance exprimée par les colons athéniens de Lemnos après le Senatus Consulte 245. Ils échappaient de justesse à la mainmise directe de Rome sur leur île. Cela valait assurément une couronne d'or pour Athéna, Archégétis et Soteira sur l'Acropole. Il n'empêche que l'ombre désormais projetée sur toute la Grèce par le gouverneur de Macédoine va s'étendre jusqu'à Athènes. Mais les Athéniens, malgré tout, conservent encore, à la différence de la plupart des autres Grecs de la péninsule, une petite marge de manœuvre. Ils la mettent à profit pour maintenir de bonnes relations avec les quelques royaumes qui subsistent en Orient sous l'hégémonie de Rome. Certes, dès 133, disparaît le plus puissant de ces États, qui paraissait encore insubmersible lors des événements de 146, le royaume de Pergame, légué au Sénat romain, on le sait, par le dernier représentant de la dynastie, le roi Attale III. À l'intérieur de l'Asie mineure, en revanche, se maintiennent un certain nombre de royaumes, ceux de Bithynie, du Pont et de Cappadoce. Disons quelques mots de ce dernier, même s'il peut paraître un peu exotique du point de vue de la vieille Grèce. Le sommaire de l'œuvre de Polybe, au livre 3 toujours, prouve toutefois que ce royaume cappadocien n'était pas une puissance négligeable aux yeux de l'historien grec. En effet, à 2 reprises, une fois avant 167 et une autre fois après cette date, Polybe devait consacrer un développement aux vicissitudes de cet État qui, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, s'était constitué, donc au-delà du fleuve Halys, dans l'Anatolie profonde, sur les ruines de l'empire d'Alexandre et de ses lointains successeurs, Séleucides. On ne sache pas, certes, que les Athéniens nouèrent des relations officielles avec ce royaume avant la fin des années 160, quand commence le règne d'Ariarathès, 5e du nom. Mais on ne saurait douter que très tôt, ils aient entendu parler du père de ce monarque, le roi Ariarathès IV, qui eut un long règne entre 220 environ et 163. On se souvient qu'Athènes avait décerné des honneurs considérables à Pharnace, roi du Pont, et cela non pas seulement en 160-59, comme l'ont cru les meilleurs spécialistes jusqu'à une date fort récente, mais dès l'année 16, s'il faut admettre, comme je le crois, la nouvelle datation proposée par Stephen Tracy de l'archonte athénien Tucandros, qui est l'éponyme du décret athénien en question, qui est érigé à Délos, à une époque où l'île jouissait encore d'une indépendance au moins théorique. Or, le roi Ariarathe IV de Cappadoce était le voisin immédiat de Pharnace. Il est vrai qu'à cette date, Athènes ne pouvait guère songer fréquenter l'allié du roi Antiochos III, et donc l'ennemi de Rome, qu'était encore le souverain cappadocien. Mais dès après 189, celui-ci sut faire le bon choix, quand l'année suivante, en effet, le consul Manlius Vulso, en expédition contre les Galates d'Asie mineure, s'approcha dangereusement de ses frontières, il devint l'ami et l'allié des Romains, amicus et socius populi Romani, moyennant le versement de 600 talents d'argent, dit Polybe, une somme assez rondelette tout de même pour un roi ayant quelques ressources patrimoniales. Mais Ariarathe ne devait pas tarder à subir les effets des velléités expansionnistes de Pharnace. Heureusement pour lui, il trouva en Eumène de Pergame, alors au sommet de sa puissance, un allié efficace, sans parler des Romains, en seconde ligne. En 179, un traité de paix imposé par ces derniers permit au roi de Cappadoce de récupérer le terrain perdu sur le roi du Pont, c'est de nouveau chez Polybe. Mais il ne semble pas qu'il ait obtenu un débouché maritime. Malgré ce handicap, il dut viser à établir des liens plus soutenus avec les vieilles cités grecques, au fur et à mesure aussi que son pays s'ouvrait à la culture hellénique. De fait, une inscription assez célèbre, Syllogée 666, atteste que son héritier, le futur Ariarathe IV, séjourna assez longtemps à Athènes et y obtint le droit de cité. On le voit ici en compagnie d'un certain Attalos, qui n'est autre que le frère d'Eumène et futur Attale II. Il dédie une statue à leur maître commun, Carnéade de Cyrène, scolarque de l'Académie, avec qui du reste Diogène Laërce nous apprend que le roi, futur roi, continua à échanger une correspondance philosophique. On n'est donc pas surpris de constater qu'une fois devenu roi en 163, et surtout après 158, quand il put se rétablir dans son royaume, grâce à l'appui du vieil Eumène, après en avoir été chassé par le roi de Syrie, Démétrios Ier, Ariarathe se montra bien disposé à l'égard d'Athènes. Ce qui dut renforcer encore ses bonnes dispositions fondamentales, c'est très certainement son souci de rivaliser de générosité dans un esprit d'entente cordiale avec les Attalides précisément, ces princes qui étaient au nombre des plus grands bienfaiteurs d'Athènes. À l'époque même où Attale II, peu après 158, faisait ériger à ses frais le fameux portique de l'Agora, le roi de Pergame se trouvait être le beau-frère du roi de Cappadoce, ayant épousé Stratonicée, fille d'Ariarathe IV, laquelle d'ailleurs avait été précédemment mariée au grand Eumène lui-même. Donc, vers le milieu du IIe siècle, Ariarathe V se sent un peu comme chez lui à Athènes. En tout cas, il accepte d'assumer, mais sans doute in absentia, la charge d'agonothète des grandes panathénées, avec tous les frais qui en découlent. On ne saurait guère douter qu'il ait participé au concours hippique dès avant cette date, mais les restes des catalogues qui subsistent pour la pentatérite de 162, celle de 158, ne conservent aucune mention de son nom. Pas trace non plus pour le moment de sa présence dans d'autres grands concours hippiques de les Olympias ou des Pythias. Le document qui atteste la gonothésie d'Ariarathe V est une amphore panathénaïque, je n'ai pas d'image, qui fut publiée peu après la guerre par Marcellus Mitsens et fit l'objet de quelques observations de la part de Jeanne et Louis Robert dans le bulletin épigraphique de 1951. Vous avez le texte sous les yeux. L'intérêt du roi Ariarathe pour la vie agonistique se manifeste également de manière très frappante dans le fait que le palmarès bien connu et déjà allégué à plusieurs reprises de l'Athénien, l'athlète Ménodoros, à Délos et Athènes même, fait mention de ce roi dont le titre et le nom, Basileus Ariarathes, se lisent en effet dans la dernière couronne en bas à droite, en lieu et place d'un nom de concours, comme si la victoire, en l'occurrence, avait été remportée lors d'une fête dont c'était peut-être la première édition. Ce devait être en tout cas un concours non encore homologué, dirait-on aujourd'hui, non officiellement accepté par la communauté des Hélènes, ainsi que l'avait bien suggéré Louis Robert. C'est d'ailleurs sur la base de cette mention que l'on a daté le monument en question vers 130 au plus tard, le roi ayant été tué, selon l'historien Justin, dans la guerre menée alors en Asie mineure par les Romains contre Aristonikos, prétendant à la succession du dernier des Attalides. On notera cependant au passage qu'il s'agit d'un terminus un peu approximatif, car l'athlète en question pourrait bien avoir fait ériger son palmarès en fin de carrière plusieurs années après la disparition d'Ariarathe. De fait, c'est vers 120, au plus tôt, que semble orienter une étude archéologique en cours du monument athénien et de sa réplique d'Hélène. Mais le document le plus éclatant du philhellénisme du souverain de Cappadoce et de son attachement à la cité d'Athènes reste, bien sûr, le décret découvert il y a bien longtemps déjà, près du stade panathénaïque, que les technites dionysiaques d'Athènes votèrent pour lui et son épouse Nyssa, Nyssa qui ne doit pas être confondue avec la princesse Séleucide homonyme plus ancienne dont un décret d'Athènes, rappelé il y a un instant, nous avait appris le mariage avec Pharnace. Si cette illustre compagnie d'acteurs et de musiciens a pris un peu avant 130, selon toute apparence, le parti d'honorer le couple royal cappadocien, c'est qu'elle avait bénéficié, comme le peuple d'Athènes lui-même, de sa très grande générosité. Même si l'importance et la nature de ces dons ne sont que très partiellement connues, en raison de la mutilation de la stèle en son sommet, non reproduit sur l'image que vous avez. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les technites conférèrent au roi Ariarathe des honneurs exceptionnels, que l'on peut qualifier de timai isotheoi, équivalent à ceux qui étaient rendus à la divinité, puisque non content de lui octroyer une statue portrait de bronze, eikona kalken, que l'on peut l'inférer des lignes 24-25, ils dressèrent de lui un agalma, une statue de culte dressée, elle, à côté de celle du dieu Paratonteon, c'est-à-dire à coup sûr Dionysos. Comment faire la distinction entre ces deux statues représentant le même personnage? La différence est d'abord à l'évidence dans le remplacement respectif. Le portrait de bronze sera dressé, décret le dit, ento propulaioi tu temenus, c'est-à-dire dans le propylée, l'entrée plus ou moins monumentale menant à l'enclos sacré. L'autre, en revanche, sera placé à l'intérieur du temple où Dionysos avait sa statue. À la ligne 24, en effet, je crois qu'il convient de restituer le complément ento nao, ou quelle que soit la forme, en supprimant le nom de Dionysos, introduit là de manière un peu superflue par Madame Brigitte Le Guen dans son recueil si bienvenu. Quand les techniques dionysiaques parlent de leur dieu en disant « ô Théos », nulle précision n'est nécessaire. Mais une différence d'un autre ordre a pu exister entre les deux effigies. En effet, il arrive bien souvent qu'un agalma soit ce que l'on appelle une statue acrolithe, dont seules les parties non vêtues sont en marbre, tandis que le reste est constitué d'une armature de bois plus ou moins élaborée, recouverte de pièces de vêtements, des vêtements qui peuvent être réels. Dans l'un de ses derniers articles, consacré à une inscription de Chimé Déolide, le très regretté Philippe Gautier a bien expliqué l'expression « agalma acrolithon », désignant la statue cultuelle offerte par cette cité au dynaste Philetairos de Pergame. On dira qu'ici le déterminatif manque précisément, mais je croirais volontiers qu'à la basse époque hellénistique, on pouvait faire l'économie de ce terme en utilisant le mot agalma dans un sens technique qui impliquait un type très particulier de statut. Quoi qu'il en soit, mon observation a pour but essentiel de rendre hommage, en passant, à ce maître des études d'histoire et des institutions grecques, disparu il y a 15 jours, dont une partie significative des travaux, avec l'article des Studi Hellenistici de 2003, qui contient cette excellente exégèse de Acrolithon Agalma, octroyée à un prince divinisé, a été heureusement réunie en 2011 dans un commode recueil publié par les soins de l'un de ses élèves, M. Denis Rousset. Dans ce décret des technites, encore, la restitution d'une ligne amputée avait profité des efforts successifs et conjugués d'Adolphe Wilhelm et de Louis Robert. Il s'agit du passage relatif à la demande « Que feront les députés des technites ?» en même temps qu'ils remettront à Ariarat et à son épouse le décret voté en leur honneur, aux lignes 59 et suivantes. Paracalesusin, etc. Il s'agira de rappeler discrètement au roi que l'on attend de lui qu'il continue à accorder aux acteurs et musiciens les privilèges dont ils bénéficiaient dès l'origine ex arches. Le premier de ces deux magistrorum, Wilhelm, avait noté que le supplément le plus approprié, venant après la préposition para, devait être amphictyonon, puisque, on l'avait vu à travers les documents amphictyoniques présentés ici même par le professeur François Lefebvre, ce sont précisément ces privilèges assurant la sécurité en tout lieu que les technites obtinrent dès le début du IIIe siècle à l'amphictyonie. Avec une égale sagacité, Robert fit observer qu'aux deux mots restitués ensuite par le maître de Vienne, Kai Basileon, Kai Dunaston, devait être substitué la locution Kai tou demou ton athénaion, qui rendait compte de l'expression finale conservée, cette fois Kai ton alon apanton, et donnait au peuple d'Athènes la place éminente qui était la sienne dans cette affaire. On s'étonne dès lors de voir que dans sa minutieuse dissertation de 2003 sur les Phoraine der Dionysischen Techniten, Madame Sophia Anesiri ait repoussé tout cela pour introduire, avec un signe de doute, sans doute, assurément, une mention du roi Ariarat, para Ariaratu, qui ne me paraît pas du tout en situation. Et l'absence du titre royal ne recommande guère cette restitution un peu improvisée. On félicitera en revanche Madame Le Guen d'avoir opté dans son édition de 2001 pour le texte bien plus satisfaisant de Wilhelm et de Robert. Un mot encore concernant l'hellénisation de la Cappadoce, de ses souverains d'abord, mais aussi d'une frange assez importante de la population, puisqu'il y avait dans les villes principales de ce pays un nombre suffisant de personnes pour assister au spectacle des technites d'Athènes et pour applaudir aux exploits de ses athlètes, ce qui, certes, n'exigeait pas forcément une connaissance approfondie du grec. Sur cet aspect des choses, il faut toujours se reporter aux pages très denses que Louis Robert avait consacrées à la Cappadoce dans ses Noms indigènes de l'Asie mineure, publié en 1963. C'est d'ailleurs là que l'on trouve aussi, de manière un peu inattendue, le commentaire et la restitution rappelés il y a un instant du décret d'Athènes pour les technites. Robert alléguait du reste d'autres témoignages sur les liens de la cité avec le royaume de Cappadoce. Ainsi, un décret octroyant la politéia à un habitant d'Ariarathéa, Ariarathéa, l'ethnique, ville fondée, ou plus exactement refondée, par Ariarathe IV sur un site bien localisé, espèce de nouvelle ou de seconde capitale construite sur le modèle des grandes métropoles hellénistiques et certainement dotée de tous les aménagements adéquats, portiques, théâtres, gymnases, etc. Le personnage honoré par ce décret datable des alentours de 130, 150 peut-être plutôt, porte un nom, plus exactement, un patronyme emblématique du caractère mixte irano-grec de la culture locale, s'appelant Mitraxides, un composé du théonyme Mitres, Mitras, et du suffixe Ides. On connaissait un Mitraxos, un Perse hellénisé dans la lointaine Bactriane. Ce citoyen d'Ariarathéa était sans doute un personnage important, mais de simples épitaphes à Athènes attestent que des Cappadociens de plus modestes conditions fréquentaient l'Attique et le Pirée en particulier. Rappelons enfin que ce qui avait amené Louis Robert à rédiger un véritable mémoire sur la Cappadoce hellénistique, c'est un très beau document conservé alors à Berlin, un décret de la ville de Anicha, rédigé en grec, superbement gravé sur une plaque de bronze. Avec une science inégalable, il montrait que ce document était à verser au dossier des inscriptions attestant l'hellénisation relativement précoce de la Cappadoce, bien avant son intégration dans l'Imperium Romanum. Le cas de la Syrie, par lequel je voudrais terminer ce survol oriental, est en partie différent, puisque l'implantation grecque y était ancienne, notamment dans les villes côtières fondées par les premiers successeurs d'Alexandre. On a vu précédemment quel lien étroit les Athéniens avaient noué à partir de 178 avec l'un des représentants les plus controversés de la dynastie séleucide, le futur Antiochos IV Épiphane. Durant le long séjour qu'il fit chez eux, et alors je n'avais pas voulu faire mention en en traitant, d'un document très morcelé de l'Agora d'Athènes, honorant un familier du roi Antiochos, qui selon l'éditeur Benjamin Dean Merritt, en 1968, ne serait autre que ce généreux bienfaiteur d'Athènes. Dans une étude parue aussitôt après, en 1969, Louis Robert, encore lui, accepta cette identification séduisante tout en montrant que le personnage honoré, Menodoros, ou peut-être Zenodotos, pardon, avait dû occuper une position très en vue à la cour d'Antioche, puisque, en début du décret, son père était qualifié de trophéus, peut-être même de titénos, éducateur, nourricier d'un enfant royal, titre attesté à la cour des Lagides et des Séleucides également. Quand le futur Antiochos IV, conjecturait Robert, était retenu en otage à Rome dans les années 180. Zeno ou Meno d'Otos lui-même avait séjourné à Athènes, à la ligne 5, il est dit... Epidemessas entepolei, et avait fait preuve de tant de dévouement à l'égard des citoyens qu'il fut jugé digne d'être fait athénien, politène et poiesène, expression qui est l'écho de la formule traditionnelle d'octroi de la politeia. C'est pourquoi, dans le dispositif du décret, à la ligne 42, cet étranger ne porte pas un ethnique syrien ou autre, mais un démotique d'Athènes, Trinémeus, Trinéméa. Toutefois, ce qui amena le peuple d'Athènes à lui voter de nouveaux honneurs, c'est ce qu'il venait de faire maintenant, nuni, à ligne 20, en tant qu'envoyé du même roi, apostoleis, hypotou basileos, presbytes. Car il s'était dévoué avec zèle à cette ambassade pour être agréable au peuple. La tournure eineken tou charizestai to demoi est bien caractéristique de la basse époque hellénistique. Et il avait tenu devant l'assemblée un discours, logon, logos, certainement pas un hypomnéma, en l'occurrence mémorial, restitution arbitraire du premier éditeur, où il avait pu évoquer les dons faits antérieurement au peuple par les ancêtres du roi, oi progonoi tou basileos. En s'arrêtant plus longuement sur les bienfaits du souverain, naturellement, dont il était l'envoyé. L'énumération détaillée de ces eurgemata est malheureusement rendue assez obscure par le mauvais état de conservation des 10 lignes suivantes. On voudrait bien savoir en particulier quel était le contexte de la ligne 32 où l'emploi du verbe epanorthosai, redresser, restaurer, suscite la curiosité. Ce qui est certain, c'est que l'action du personnage fut jugée digne d'être récompensé par les plus grands honneurs. Une statue à placer sur l'agora, près de celle du roi. Et chose plus rare encore, pour un étranger, il est vrai doté, en l'occurrence, du droit de cité, la nourriture aux prytanées, la citésis. Conscient de la part d'hypothèse que contenait cette reconstitution historique, Louis Robert écrivait en 1969, « Si ces conjectures ont touché le vrai, ou si elles se sont égarées sur une fausse piste, l'avenir, proche ou lointain, le dira. » En 1988, trois ans après le décès de notre maître, l'épigraphiste Stephen Tracy pouvait montrer sur la foi d'un texte augmenté encore de deux petits fragments, et avant tout sur la base de son analyse de la paléographie, que ce décret devait dater des alentours de 130 seulement, ce qui rendait bien peu probable que le père du personnage honoré eût été le trophéus d'Antiochos IV, décédé en 164. Le roi Antiochos, mentionné dans le décret, doit être en réalité son arrière-petit-fils Antiochos VII, dit Sidétès. Il n'en reste pas moins certain que Zeno ou Ménodotos dut ranger au nombre des plus grands bienfaits accomplis par les progonoi du roi régnant, la mémorable entreprise de l'Olympieion, financée par l'hôte des Athéniens, que fut Antiochos IV. D'autre part et surtout, on constate avec plaisir, mais sans réelle surprise, que la plupart des suppléments proposés par Louis Robert, y compris ce mot « téthénos » qu'il suggéra avec prudence d'associer à « trophéus », ont été adoptés non seulement par Tracy lui-même, mais par Wooded, dans la publication que vous avez sous les yeux du décret dans le recueil des fouilles américaines de l'Agora en 1997. On peut donc, une fois de plus, apprécier de manière très positive la contribution du grand épigraphiste français, en dépit de la rectification d'ordre chronologique qu'ont rendu possible et nécessaire les progrès ultérieure de la recherche. Comme le plus souvent, ces conjectures, loin d'égarer ou de s'égarer, ont touché le vrai. D'autres documents attestent les bonnes relations d'Athènes avec la cour séleucide dans ces mêmes années, ainsi un décret pour le milésien Ménestos, qui reçut lui aussi la citoyenneté athénienne. Ce personnage et sa famille sont connus à Milet, et je me borne à renvoyer au très bel article qu'un autre maître de l'épigraphie grecque, l'allemand Peter Hermann, trop tôt disparu en 2003, avait consacré à une série de « Milesier am Seleukidenhof » pour reprendre le titre de son mémoire de la revue Chiron 1987. On relèvera seulement que la période d'activité de Ménestheus de Milet, fils d'un officier séleucide très haut placé sous le règne d'Antiochos IV, pourrait avoir duré plus longtemps que ce savant ne pouvait le soupçonner, puisque, au vu ici encore des travaux de Stephen Tracy, le décret athénien en question devait dater seulement, ou devrait dater seulement de 130 environ, non pas des alentours de 150, date qui paraissait de prime abord la plus plausible, puisqu'en 162 déjà, le personnage avait été envoyé en mission à Rome avec ses deux frères pour ramener en Syrie le prince Démétrios, futur Démétrios I, chose qu'il put réaliser tous trois grâce à l'appui personnel de Polybe, lui-même otage à Rome. Je voudrais conclure en rappelant l'existence d'un décret qui éclaire une autre facette des liens d'Athènes avec les rois et les dynastes de cette Syrie-Palestine en pleine ébullition, alors déjà, depuis le règne d'Antiochos IV précisément. On sait en effet que ce roi avait voulu, par toutes sortes de mesures violentes, renforcer son autorité sur la Judée et plus spécialement sur Jérusalem, où certes existait un courant favorable à l'hellénisation des mœurs, mais fortement contrebalancé par une opposition très farouche, en d'autres milieux, à cette évolution. Je n'ai évidemment pas l'intention d'entrer maintenant surtout dans une question aussi complexe, qu'il me suffise de dire que de ce mouvement vers plus d'autonomie qui tirait parti d'une grave crise de la dynastie séleucide, devait sortir un État, un véritable État juif, le futur royaume hachmonéen, du nom d'une famille sacerdotale, dont l'un des plus brillants représentants fut l'ethnarque Ioannes Hyrcanos, Jean Hyrcan, qui devait régner de 135 à 101 avant Jésus-Christ. Or, c'est à ce prince que se rapporte un décret honorifique émanant d'Athènes, qui est conservé seulement, avec d'autres documents, au livre 14 des Antiquités judaïques du juif hellénisé Flavius Joseph, le familier des empereurs Vespasien et Titus. On pourrait certes être tenté de mettre en doute l'authenticité d'un tel décret, puisqu'il paraît de prime abord étonnant que les Athéniens aient fait l'éloge de cet adversaire des Séleucides, alors même qu'ils étaient très redevables au souverain régnant à Antioche. Mais la difficulté s'atténue quand on considère la chronologie. En effet, le décret pris sous un archonte nommé Agathoclès, lequel existe bel et bien dans la liste des éponymes athéniens et peut même être daté très précisément de l'année 106-5, on le retrouve en effet en tête d'un long décret éphébique qui est fort bien daté. Or, ce document montre que le secrétaire athénien en charge cette année-là, Euclès Xenandrou Aïtalides, ne fait évidemment qu'un avec le grammateus nommé dans le décret transmis par Flavius Joseph, sauf que le patronyme et le démotique, là, ont été déformés dans la tradition manuscrite, où on lit effectivement Menandrou Alimousios. Il faut donc certainement compter avec d'autres déformations ou omissions possibles dans ce texte dont Flavius Joseph lui-même n'avait sans doute qu'une copie assez fautive. Aussi, l'excellent Théodore Renan, qu'avait-il conjecturé il y a plus d'un siècle, qu'après la mention, vers la fin du décret, des trois fêtes à l'occasion desquelles était prévue la proclamation des honneurs, le nom d'un autre concours gymnique, celui des Ptolémaïa, avait dû figurer dans la version primitive du texte. Mais l'authenticité du décret dans son ensemble ne semble pas pouvoir être mise en doute pour autant. Il faut donc admettre que les Athéniens tinrent à récompenser, y compris par l'érection d'une statue dans le Téménos du peuple et des Carites à Athènes, le prince Jean Hyrcan, qui faisait de grands efforts pour se concilier la bienveillance, voire la plus diplomatique, de la plus prestigieuse des cités grecques. Mais en l'an 105, à la fin du long règne de l'ethnarque juif, la monarchie séleucide était véritablement moribonde. Dès lors, les Athéniens ne sauraient être taxés d'ingratitude à l'égard des Apogonoi, des lointains descendants de leur très grand bienfaiteur et ami d'autrefois, le roi Antiochos IV, qui avait voulu établir dans le temple de Yahvé à Jérusalem, au grand dam de la population locale, le culte de ce Zeus olympien dont il avait promis d'achever le temple gigantesque au pied de l'acropole d'Athènes. Je vous remercie.